Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute. Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin. Nous voici les titres. La France et la République tchèque ont signé un accord de coopération dans le domaine nucléaire. La France va proposer son réacteur EPR pour la centrale de Temelín. Et puis le président Václav Klaus sera en Belgique la semaine prochaine, notamment pour la sortie de la version néerlandaise de son livre. Présent à Prague, c'est mercredi et jeudi, le ministre français de l'Industrie et de l'Énergie, Éric Besson, a signé un accord de coopération bilatérale dans le domaine nucléaire avec le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Martin Kocourek. Cette feuille de route prévoit notamment un programme commun de préparation des étudiants et en échange de stagiaires. Dès cette année, 8 étudiants tchèques bénéficieront d'une bourse d'études en France. Par ailleurs, les deux pays devraient approfondir leurs projets dans le domaine de la recherche et du développement et coordonner leur position au sein des institutions internationales. Enfin, la France et la République tchèque souhaitent également renforcer la sécurité nucléaire sur la base d'un accord qui devrait être signé avant la fin de cette année par les représentants d'institutions indépendantes des deux pays. Toujours à l'occasion de la signature de cet accord de coopération nucléaire entre Prague et Paris, Éric Besson a indiqué que la France allait présenter en temps voulu le réacteur EPR. Le groupe français Areva, qui a développé ce réacteur de troisième génération, est un des trois candidats, vous le savez, à l'achèvement de la centrale nucléaire de Temelín. Le montant des travaux de cet achèvement pourrait s'établir à 20 milliards d'euros. Le réacteur pressurisé européen permettrait de distribuer une puissance électrique de 1600 MW, soit la puissance souhaitée pour les deux nouveaux réacteurs de Temelín. Selon la presse tchèque, la société américaine Westinghouse et le consortium russo-tchèque réunissant les sociétés Atomstroyexport, Gidropress et Škoda, les deux autres candidats à l'achèvement de la centrale proposeraient des réacteurs d'une puissance inférieure de 400 à 500 MW. Éric Besson devait également rencontrer ce jeudi les chefs des gouvernements tchèques et slovaques, Petr Nečas et Iveta Radičová. En visite en Belgique la semaine prochaine, Václav Klaus tiendra le 25 mai une allocution sur l'Europe dans les locaux de l'université d'Anvers. D'après l'agence belge Belga, ce discours sera introduit par le chef de file des nationalistes flamands Bart De Wever. Grand adversaire du traité de Lisbonne, aimant se présenter comme un dissident de l'Europe, Václav Klaus profitera également de sa présence à Anvers pour lancer la version néerlandaise de son livre « Planète bleue en péril vert », un brûlot dans lequel il présente le réchauffement climatique comme un dogme totalitaire. Un tour vers la croisette, il n'y a pas beaucoup de films tchèques au Festival de Cannes, mais il y a quand même quelques stars de bohème. Deux mois après avoir accouché d'un petit garçon prénommé Philippe, l'actrice et ancienne mannequin tchèque Eva Herzigova a fait sensation ce jeudi sur les marches. Une autre vedette tchèque, Miloš Forman, qui joue dans le film présenté en clôture du festival, devrait lui aussi bientôt monter les marches. La météo avec du soleil et une météo estivale en ce moment en République tchèque et à Prague, des températures autour de 25 degrés pour les maximales. Dans un instant, dans une poignée de secondes même, vous retrouvez Václav Richter pour la suite du programme en français de Radio Prague. Très bonne écoute.
Faits et événements en République tchèque. Un projet européen de construction de lasers réalisé en République tchèque. Ouverture d'un club animé par trois DJ français. Invitation au château de Loučeň, situé à moins de 50 km de Prague. Ce sont les thèmes qui ont été préparés aujourd'hui pour vous par la section française de Radio Prague. Merci de rester avec nous. Une coopération européenne pour la construction de lasers extrêmement puissants, c'est le projet ILAI pour la recherche scientifique. Un budget colossal pour un projet très ambitieux qui concerne directement la République tchèque. C'est à Dolní Břežany, juste à côté de Prague, que va être installé le principal élément de cette nouvelle aventure scientifique. Reportage Alexis Rosenzweig.
Dolní Břežany, petite commune de 3000 habitants située en banlieue de Prague, c'est là que le principal élément du projet européen ILAI doit être construit, un projet qui prévoit les lasers les plus puissants du monde, avec un énorme budget approchant les 300 millions d'euros rien que pour la partie tchèque. La Commission européenne a récemment donné son feu vert, et c'est évidemment une excellente nouvelle pour le maire de Dolní Břežany, Vjeslav Michalik.
Tak měli jsme ohromnou radost, protože na projektu jsme s fyzikálním ústavem spolupracovali.
Et cela nous a fait très plaisir parce que cela fait plusieurs années que nous travaillons sur le projet avec l'Institut de physique. La décision de Bruxelles est donc venue récompenser les efforts fournis.
Vyvrcholením toho období těžké práce. Konkrétní očekávání samozřejmě jsou, protože budou...
Concrètement, cela peut nous apporter beaucoup. D'abord des emplois, car il va y avoir 350 postes créés, et pas seulement pour des chercheurs scientifiques. Il y aura ensuite des retombées pour la commune, qui aura la possibilité de réaliser d'autres projets liés à ce projet. Cela va amener également d'autres investisseurs. Et puis c'est une question de prestige pour la République tchèque, pour la région de Bohême centrale, et puis pour notre commune.
Navázání spin-off situace a podobně.
13 pays membres de l'Union européenne et une quarantaine d'instituts de recherche et d'universités sont impliqués dans ce projet présenté sous l'acronyme ELI, ELI en anglais. Explication avec Francesca Gracia, c'est la directrice des affaires européennes du CNRS français.
C'est Extreme Light Infrastructure, tout le monde connaît ce projet. En ce qui concerne la République tchèque, il s'agit de produire de la lumière laser à très forte intensité, mais également d'accélérer dans un futur, si la technologie sera là au rendez-vous, des particules, telles que les électrons ou les protons éventuellement. Et cela a évidemment des impacts importants pour la société, parce qu'il s'agit aussi d'utiliser cette technologie pour éventuellement la médecine, l'imagerie médicale et la thérapie.
Le projet ELI a pour l'instant 3 différents sites, en attendant un 4e qui sera choisi l'année prochaine. Le principal à Dolní Břežany en Tchéquie, le 2e à Szeged en Hongrie et le 3e à Măgurele en Roumanie. Jacques Martineau est le directeur de l'Institut français de physique nucléaire et de physique des particules. On écoute.
C'est un projet très important, non seulement pour les Tchèques, mais je pense que c'est un projet important pour toute la communauté européenne. Les techniques peut-être, je parle de 2070, je ne parle pas de demain, mais je parle des techniques futuristes d'accélérateurs pourraient être créées via cet institut ELI, je devrais dire en anglais, où la Tchéquie a un rôle central à jouer. Alors, je vous parle d'accélération de particules pour la recherche fondamentale, pour de nouvelles découvertes sur le front des connaissances, mais ces accélérateurs pourraient peut-être conduire à la miniaturisation d'autres types d'accélérateurs, et certains y pensent déjà pour accélérer des protons, pour traiter le cancer, pour faire de l'irradiation. Tout est ouvert. Je ne vous dis pas qu'on a la solution, sinon ce ne serait pas de la recherche.
À Dolní Břežany, à part cette vendeuse qui avait déménagé de Prague pour y trouver le calme, les habitants semblent plutôt contents de la perspective de la prochaine installation d'un centre de recherche scientifique de pointe à côté de chez eux. Je suis contente que ce soit installé ici. Břežany va pouvoir en bénéficier avec des emplois, des infrastructures routières par exemple et des nouveaux clients pour les magasins, se félicite cette dame, mère de 2 enfants. Il y aura sûrement plus de bus entre ici et Prague, espère ce jeune informaticien. Pour le maire de la commune, les seuls inconvénients seront peut-être les gênes occasionnés pendant les travaux de construction. La hausse des prix sera peut-être un autre problème pour ceux qui espéraient s'acheter une parcelle dans le coin. Lislav Michalik à nouveau le maire.
Pozemky v Dolních Břežanech, tím, že jsme blízko Prahy, byly vždycky atraktivní a...
Étant donné qu'on est à côté de Prague, les terrains ont toujours été recherchés ici. Il n'y a pas vraiment de marge pour la spéculation foncière ici, mais c'est vrai que le prix du terrain va augmenter. Ce projet rend la zone plus attractive.
Cenu pozemku zvedá a zatraktivňuje je to.
La construction de la partie tchèque du projet ELI de laser à très haute intensité devrait être achevée en 2015.
À 2 pas de la station de métro Ipe Pavlova, le Yes Club va faire parler de lui. Il s'agit d'un nouveau club pragois ouvert récemment par 3 DJ français, William Kluba, Christophe Romboni et Mathias Touchard. Nous sommes allés à leur rencontre pour en savoir plus sur ce projet ambitieux qui conjugue convivialité et mix de qualité avec ce qui se fait de mieux en matière de musique électronique en République tchèque, le tout dans une ambiance très sympa et à prix abordable. William Kluba et Christophe Romboni nous parlent de leur parcours qui commence dans les free parties du début des années 90 et bien sûr de l'ouverture du Yes Club qui constitue la suite logique de l'expérience musicale des 3 DJ. Leurs propos ont été recueillis par Pierre Maignan.
Ben en fait, on a toujours été attirés. On vient de mouvements plus ou moins vastes, parce qu'on vient plus ou moins du reggae, etc. Mmh. En fait, on n'a jamais été vraiment influencé. On a toujours été bercé par, toujours quand même par les musiques alternatives. On a toujours été attiré par ce côté un peu obscur de la musique. Et jusqu'au jour, on a découvert vraiment le milieu de la musique électronique. En fait, on a toujours eu des influences plus ou moins grandes, que ce soit du hip-hop, du reggae, du rock, etc., de la pop et tout. Mais la découverte de l'univers à cette époque-là, du milieu électronique, ça a été le sacerdoce, c'était la révélation. C'est wow, ok, d'accord, c'est ça en fait.
Ce qui est bien avec la techno, c'est que ça rassemble un peu de tous les styles. C'est des gros mix d'un peu tous les styles, du coup, c'est ça qui nous a plu. Lui, il y a du reggae, du hip-hop, mais on retrouve ça dans les morceaux électro, techno, ou un peu de tout dans la même masse, tout ça. Donc, puis après, le milieu aussi, l'ambiance des soirées.
Il y avait un message, ouais. Il y avait tout un spirit de voyage, d'une autre façon de faire la fête, d'une autre façon de communiquer la musique, qui était complètement différente d'une période des années 90, qui était plutôt formalisée à des trucs beaucoup plus classiques ou entre guillemets commerciales.
Et pourquoi la République tchèque, pourquoi ça te fixe ici? S'il y a une culture de la techno, j'imagine.
Peut-être que c'est venu d'un. Donc lui, il a organisé plusieurs grosses soirées au sud de la France, même dans le nord, et dans toute la France. En fait, c'est une tournée que ça fait dans le libre. Et la fin de cette tournée s'est achevée ici, en République tchèque, avec 4 dates, où on est tous partis avec le troisième partenaire qu'on a. Et donc là, c'est formé donc, une espèce de crew qui s'appelle Yes Papa. C'est pour ça que le club s'appelle Yes Club. Ça vient de là, en fait. Et c'est là où on est tombé amoureux de la Tchéquie, on l'a découvert vraiment, on a passé 10 jours, c'est créé entre nous quelque chose
de magique.
Et vous pensez qu'il y a un esprit différent en France ou ici par rapport à la musique techno?
Disons que l'approche elle est différente, c'est-à-dire qu'il y a en France il y a une connotation très très négative de tout l'univers de la musique électronique. Ici, c'est une culture musicale.
Donc j'ai entendu dire que vous venez d'ouvrir début avril, vous prenez vos marques, ça marche comment?
Ça marche bien, on fait des belles soirées, on fait des très 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 belles soirées. On est très content pour l'ouverture, ça buzz bien. On pense et on le croit sincèrement, c'est pour ça qu'on le fait, c'est parce qu'il y a encore des messages à passer et on sent le courant qui passe, le message qui passe. C'est une autre ambiance, c'est autre chose, c'est de la musique, c'est de la culture, c'est un autre esprit de la fête, c'est un autre esprit du clubbing, et c'est vrai que on est différent de tous les autres clubs.
Voilà, ça c'est important de parler du projet, ouais, du projet de ce club. Donc il est monté par trois DJ, on n'a pas le profil type du gars qui ouvre son club, qui a des ronds et qui veut faire des ronds. Justement, nous, on a une autre démarche, donc on a investi sur un système de qualité qui est des meilleurs au monde. On s'est risqué sur faire d'utiliser de nouvelles technologies comme le 3D mapping, et puis on est au centre-ville, hein, on est à 200 mètres du centre historique de Prague, et on est super pas cher, mais vraiment, donc on a vraiment une démarche de faire un endroit positif, c'est pour ça que ça s'appelle le Yes d'ailleurs, hein, et pas cher, abordable pour tout le monde, et booker des DJ internationaux tous les week-ends, donc c'est plus, on a ça dans la musique, c'est pour nous c'est toute notre vie, donc on a vraiment... On a abordé ce projet pas pour essayer de faire de devenir riche ou quoi, mais pour proposer quelque chose au Tchèque, et même pour nous, hein, pour notre plaisir personnel. Hein.
En parallèle, William, Christophe et Mathias gèrent plusieurs labels et ont fondé une agence de booking, Electro Booking, laquelle leur donne l'occasion de jouer dans les clubs les plus prestigieux d'Europe, pratiquement tous les week-ends. Ils ont tous produit plus d'une centaine de disques. Inutile d'ajouter que cela leur permet de proposer une programmation riche et diversifiée, dans un esprit Yes Papa. Si vous désirez plus de renseignements sur le club et sur les soirées qui y sont organisées, n'hésitez pas à consulter le site internet www.yespapaclub.com. Et merci à Kiwix et à Kid Reverse pour les extraits musicaux.
Vous êtes toujours sur Radio Prague, direction aujourd'hui le château de Loučeň, un château baroque entièrement rénové, l'un des plus vivants qui offre, outre deux circuits de visite, des salles à louer pour des mariages, séjours romantiques, réceptions et séminaires, dans un cadre authentique et amusement et méditation, dans le parc où se trouve le plus grand ensemble de labyrinthes créés dans la nature. nous vous proposons une reprise de l'émission que nous avons consacrée à ce demeure aristocratique. Lautchen n'est pas loin de Prague, à moins de 50 km vers l'est. Le domaine vit un premier tournant de son histoire en 1623, avec l'arrivée de la famille Wallenstein, puis en 1809, lorsqu'il devient la propriété de la famille aristocratique de Thurn-Taxis. Jarka Gisiblova vous fait visiter le château.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc.
Notre visite commence dans la salle au premier étage qui se présente aujourd'hui comme il y a plus de 100 ans. Familiariser le visiteur avec le style de vie et les destinées des membres de la famille Thurn-Taxis est la principale philosophie de ce château, raconte le guide Jiří Senohrábek. En s'arrêtant devant un objet un peu étrange dans ce milieu, un ancien traîneau en bois peint de jaune, histoire de l'origine de la richesse et du pouvoir des Thurn-Taxis.
À l'origine, il y avait le service postal que la famille gérait d'abord en Allemagne. La couleur jaune du traîneau est la même qui est utilisée aujourd'hui encore par la poste allemande. En 1512, Maximilien Ier a anobli la famille Tasso originaire de Lombardie, qui s'appellera von Thurn-Taxis et qui dominera la totalité de la poste européenne pendant plus de 500 ans. Leur service postal se termine en 1867, mais le corps, un des éléments des armoiries de la famille, est toujours le symbole de la poste dans de nombreux pays. Et encore une chose, la poste, ce n'était pas que le transport de lettres et de colis, mais aussi de personnes. Inutile d'en dire plus, si l'on supprime la dernière lettre à la fin de la particule taxis, on obtient un mot bien international.
L'histoire de la famille Thurn-Taxis continue dans la plus grande salle du château, la salle à manger, théâtre des noces d'or célébrées ici par le couple princier Alexandre Jean-Vincent Thurn-Taxis et Marie de Hohenlohe, 50 ans après leur mariage à Venise. La salle est richement meublée, décorée de porcelaine et de verre, résultat des aménagements réalisés en 18 mois avant la réouverture du château au public le 7 juillet 2007.
Encore en 2005, les intérieurs du château de Lautchen faisaient penser à un appartement des temps du socialisme. À partir de 1949, le château a appartenu au ministère des Transports et a abrité un centre de formation pour cheminots et expéditionnaires. Pratiquement rien n'est resté du riche mobilier d'origine, endommagé à la fin de la guerre. Deux tiers du mobilier sont des répliques ou des meubles anciens achetés dans des boutiques d'antiquités. Le reste du mobilier d'origine a été retrouvé dans des dépôts des châteaux de Jemniště, Kačina et Veltrusy.
Les intérieurs ont pu être reconstruits et aménagés d'après des documents d'époque qui se sont conservés grâce au journal de la princesse Marie et aux photographies noir et blanc prises pendant le séjour d'Alexandre Jean-Vincent Thurn-Taxis, grand explorateur et amateur de courses, raconte notre guide.
Alexandre partait souvent en voyage en Afrique. Des objets ramenés de ses expéditions en Afrique sont à voir dans les collections des sciences naturelles du Musée national de Prague. Les chevaux et les courses étaient une autre grande passion du prince. L'obstacle le plus redouté du grand steeplechase de Pardubice est appelé Fossé-Taxis, non pas directement d'après le prince Alexandre, mais d'après Egon Thurn-Taxis, son proche parent de la branche allemande.
Une salle révèle le niveau technique relativement élevé du château. L'installation de l'électricité remonte à l'an 1911. Une tour du château servait de château d'eau. Une autre salle évoque le séjour à Lautchen de personnalités connues.
Rainer Maria Rilke a séjourné deux fois dans ces lieux. Bedřich Smetana venait très souvent à Loučeň grâce au lien personnel avec l'inspecteur des forêts Josef Schwartz, qui était son gendre, mais aussi parce qu'il n'y avait que 4 km de sa maison forestière de Jabkenice pour venir à Loučeň. Le célèbre biologiste Jan Evangelista Purkyně a dirigé l'aménagement du vaste parc du château et la chronique du château conserve la signature de Mark Twain qui a visité Loučeň en 1899. Bedřich Smetana a dédié au prince Alexandre une composition pour piano et violon. Elle s'appelle « Z domoviny, de mon pays » et sa partition est exposée dans la vitrine d'or.
Oranžových deskách jmenuje se Z domoviny a je to duet pro housle a klavír.
La visite du château prend fin dans la bibliothèque qui est la salle la mieux conservée dans son état d'origine, à l'exception des livres qui ont été brûlés pendant et après la guerre.
On y trouve un livre d'origine auquel nous tenons particulièrement. Il documente que non seulement les hommes, mais aussi les objets ont leur destin. Il s'agit du journal de Caroline Tourntaxis, la sœur d'Alexandre. Le journal, qui s'est perdu en 1945, est réapparu en 2003 lors d'une vente aux enchères à Vienne, et c'est ainsi qu'il est revenu 60 ans plus tard en ces lieux.
Čirou náhodou obloukem tedy po 60 letech, tak se vrátila sem na místo činu.
Les propriétaires actuels qui ont acheté Loučeň en 2000 dans le cadre d'une privatisation ont décidé d'embellir l'endroit par un système de
labyrinthe.
Leur auteur est Adrian Fischer, architecte le plus renommé en matière des labyrinthes de jardin qu'il a créé dans de nombreux pays d'Europe, mais toujours au maximum deux ou trois dans un endroit. Nous ne connaissons aucun autre plus grand complexe que celui de Loučeň qui en possède une dizaine.
O žádném komplexu, kde bych bylo tolik jako u nás, to znamená 10.
Les labyrinthes dont on croit qu'ils stimulent la créativité, l'inspiration et l'énergie et qui servent d'outils de méditation sont faits de différents matériaux comme le bois ou la pierre. Ils se réfèrent tous au labyrinthe le plus connu qui se trouve à l'intérieur de la cathédrale de Chartres. Le plus magique parmi les labyrinthes de Loučeň est celui de lumière installé devant l'entrée du château et qui ne s'illumine qu'aux alentours de 22h en été.
C'était donc une reprise de la rubrique historique qui vous a été présentée cette fois-ci par Jarka Gisublova. Merci d'avoir écouté la première partie de notre émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.